Vraiment, mon pauvre enfant, hein, tu t'entends là? Non, mais t'es lamentable, minable, mais à qui veux-tu faire croire tout ce que t'es en train de raconter? Incroyable, t'as même mis une cravate rouge pour faire croire que t'es peut-être un peu social. T'es vraiment nul, 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 nul. Il faut que le match de Marseille commence parce que ça sera sûrement plus bandant que ce que t'es en train de nous raconter. Nul, nul, il est temps que tu te casses. Allez, salut, Raffarin, t'es foutu, t'es foutu.
C'est Christian de Bordeaux. J'ai entendu le type de chez Peugeot. Et je tiens à lui faire remarquer simplement que je fais partie, dans ma boîte, de ADS au Jama Service, les 3 ou 4 qui, eux non plus, n'ont refusé systématiquement la médaille de travail et surtout l'enveloppe qu'elle est avec. Et je suis assez fier de voir qu'il n'y a pas que moi. Ça me soulage. Allez, salut camarade.
Je suis un patron d'Ardèche. J'ai 12 employés. Je suis maçon, hein. J'ai une entreprise de maçonnerie. Je suis maçon. Je paye bien mes employés parce qu'ils font du bon boulot. Quand je leur demande de faire des extras, ils font des extras que je paye, ou alors que je les mets en RTT. Mais il est hors de question. Et si tous les patrons comme moi faisaient pareil, il est hors de question que je les fasse bosser, mes hommes, pendant une journée gratos pour les vieux à cause de gouvernement ou de celui-ci et de celui d'avant et de ceux d'avant qui n'ont pas su voir venir le fait que il y aurait de plus en plus de vieux en France. Mais je vais pas faire payer encore une fois les ouvriers pour une histoire de mauvaise gouvernementation. Allez, ciao.
Je ne supporte plus le silence assourdissant des médias. Je ne supporte plus leurs mensonges et leurs mépris. Je ne supporte plus leurs manipulations, leurs propagandes. Depuis quelques jours, les médias ont l'air de découvrir que la torture est pratiquée par la coalition sur la population en Irak. Je ne parle même pas de Guantanamo. Cela fait des mois que ce n'est plus un scoop. Depuis des mois, les fameuses vidéos des assassinats d'Irakiens par les militaires US circulent sur le net. Tout le monde sait que ce ne sont pas des actes isolés, mais bien l'application des politiques de l'administration Bush. Il y a peu, sur les répondeurs de là-bas, si j'y suis, il y a eu un message au sujet d'une jeune femme qui était contrainte d'accoucher menottée. Là aussi, on a eu l'air de découvrir un cas isolé. Ça suffit, l'hypocrisie. La torture est pratiquée en France, ainsi que la mise à mort de prisonniers. Les 5 prisonniers et prisonnières d'Action Directe subissent une vengeance sans précédent. Ils sont dans un état de santé alarmant et en danger de mort. Il y a des associations et des collectifs mobilisés qui tentent de se faire entendre. Aucun média n'en parle, c'est tabou. Quand cela va-t-il cesser? Quand les médias cesseront-ils de se rendre complices de ces assassinats prémédités? Je demande avec insistance que là-bas, si j'y suis, prenne un peu de temps pour nous informer. Je vous remercie beaucoup, c'était Patsy de Bruxelles. Au revoir.
Bonjour et merci d'accueillir l'expression de notre fureur, de notre révolte face aux incitations à la surconsommation qu'on entend presque comme un devoir civique ces derniers temps. Moi je voulais dire que non, surconsommer comme ça c'est pas la vie, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'est la mort. C'est la mort pour ceux qui veulent toujours bosser pour avoir plus de fric, pour s'acheter des objets inutiles, pour gaver leurs enfants de jeux prétendument éducatifs et de jeux vidéo et les laisser seuls. Et c'est la mort aussi pour ceux qui achètent des bagnoles trop grosses et trop puissantes. Et c'est la mort aussi pour ceux qui peuvent pas bosser et qui n'ont pas d'argent et qui dont la seule façon accessible de s'approprier les objets, c'est de les détruire. Moi je fais de la musique, j'en fais pour moi, je l'enseigne aussi à toutes sortes de gens, des vieux, des jeunes, des doués et des pas doués. Et je peux dire que le plaisir de réaliser quelque chose, de mouiller sa chemise et de voir que ça marche, qu'on y arrive, qu'on produit quelque chose qui sonne, qui est communicatif, et ben ça c'est la vie et c'est quelque chose qu'on trouvera jamais, même en promotion chez Carouf. Voilà, à bientôt.
Bonjour Daniel, c'est Thierry de Vannes, bien après l'émission de ce soir. Juste pour dire que le mercredi 19 mai à 20h30 au cinéma Lyris à Questembert, du côté de Vannes, Vincent Glenn viendra présenter son film Passé de volume. Voilà.
Et ben voilà, il va le présenter là où on vient de vous le dire, son film, Vincent Glenn, mais il le présente aussi tout de suite dans La Basse J'y suis. C'est le deuxième volet de cette... interview de ce jeune réalisateur de Pas assez de volume. Hier, il nous a tout expliqué, ou presque, sur l'OMC et aujourd'hui tout ou presque sur la GCS. Qu'est-ce que c'est que ça la GCS? Qu'est-ce que c'est que ça l'OMC? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? On nous aide pas trop à comprendre. C'est pas facile. Il y a une sorte d'opacité autour de ces mots-là. Une sorte d'opacité transparente. Il y a une fausse transparence qui nous fait croire que c'est simple. Et en fait, c'est une transparence qui est faite pour rendre les choses plus opaques. C'est clair ce que je vous dis? Non? Eh ben, justement, c'est pour ça qu'on retrouve Vincent Glenn et ce drôle de film aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la deuxième partie, c'est un travail de Guy Vanquil. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel Mermet et salut les auditeurs de la base. J'y suis. Je voudrais annoncer le forum social qui va avoir lieu ce week-end à Beaumont, à côté de Clermont, avec des débats, travail, chômage et souffrance sociale, débat sur la GCS, débat sur l'Europe avec Suzanne Georges et... d'autres messages sur le répondeur de la base CGC. Il y a un film inédit et très sympathique pour les auditeurs s'ils veulent devenir voyeurs de la base CGC. Le film s'intitule Images de là-bas, réalisé par Serge Lèbre et qui montre la préparation de l'émission, la base CGC, les coulisses, la radio, le studio. Tout ça à 18h aux premières rencontres régionales du film social avec d'autres films. On n'est pas des steaks hachés, Le bien commun, Témoins gênants, Un été de canicule et encore d'autres films. Allez, salut!
Bonsoir à tous et particulièrement à tous les Hauts-Savoyards. Prenez un stylo et notez bien ce qui va suivre.
Les 15 et 16 mai.
Pour qu'un autre monde soit possible, nous organisons le tout premier forum social départemental de Haute-Savoie pour résister à l'ultralibéralisme ambiant.
Les 15 et 16 mai prochains.
À Annemasse, au complexe Martin Luther King, tout près de la gare.
Notre site internet www.fsd74.org. Je répète, www.fsd74.org. Harvey, pas les 15 et 16 mai.
Attaque 28 organise dimanche 9 mai, dimanche prochain, une projection du film de Gilles Balbastre, Le chômage a une histoire, en présence de Gilles Balbastre. La soirée se déroule à la Verrière, à nos gens le retrouvent, il débute à 16h30. Voilà, venez nombreux, dimanche 9 mai. Merci.
Et maintenant, réclame. Nous allons ensemble faire un truc encore jamais réalisé à la radio, un karaoké. Allez, c'est parti. La pub à la radio, c'est que pour les blaireaux. Un jour les auditeurs casseront les émetteurs. À vous. La pub à la radio, c'est que pour les blaireaux. Un jour les auditeurs casseront les émetteurs.
La pub, rassurez-vous, on ne vous prend que pour des cons.
Oh, écoutez, le MEDEF sait ce que c'est que les manifestations, puisqu'il y en a pratiquement tous les jours. Écoutez, celle-ci, comme les autres, manifeste de l'idée qu'on se fait qu'on peut, dans la rue, empêcher l'inéluctable.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanquil. Pas assez de volume, le film de Vincent Glenn.
Flight number 2, arriving from New York.
J'ai reçu un message anonyme par mail, je vais vous le lire, peut-être que je finirai par savoir qui l'a écrit. Imaginons une famille de Saint-Étienne au cours d'une journée normale. Le garçon boit un verre d'eau du robinet, téléphone à un copain en faisant le 7, fait ses devoirs avec Emmanuel, Nathan ou Bordas, cherche un mot dans le Larousse, une précision dans le Quid. Il lit L'étudiant pour s'orienter, écoute un CD de Nirvana ou d'Eminem, s'en va au cinéma voir Mulholland Drive ou Un homme d'exception. De retour, il se met à son ordinateur où son petit frère jouait à Adibou. Il introduit Diablo 2, puis se connecte sur le site de jeu flipside.com. À côté, son père laisse tomber l'express et l'expansion pour lire « Le monde n'est pas une marchandise » de José Bové, tout en écoutant un opéra de Verdi. Il allume la télévision, Après un bref passage sur e-télévision, ils zappent sur Canal+, puis s'arrêtent sur un documentaire de Planète diffusé par Canal Satellite. Avant d'aller se coucher, il descend les poubelles collectées par Onyx. Sa femme revient en tramway, exploité par Connex, du cinéma UGC. Elle se connecte sur le site internet d'Ivento pour acheter des places pour Guy Bedos à l'Olympia, puis passe un coup de téléphone sur son portable SFR. Au cours de toutes ses activités, cette famille n'avait pas quitté un seul instant Vivendi Universal. On peut préciser que le groupe Matra achète de Lagardère, qui représentait déjà en France environ 80% des livres de poche et, paraît-il, 80% des éditions scolaires, a racheté depuis ses bouquins à Vivendi. Ce qui prouve au moins qu'on peut à la fois vendre des canons et de l'éducation, tout en étant le premier groupe mondial pour la presse magazine.
C'est avec grande joie que nous l'accueillons ce soir, Manu Chao et le Radio Bemba Sound System.
L'électrique public qui passe à l'électrique privé, ça, on voit ça partout. C'est pas nouveau. En Amérique du Sud, ça arrête pas. Pourquoi ils ont flingué le train partout? En Amérique du Sud, il n'y a plus de train, qui était souvent des services publics et qui était le moyen de communication le plus accessible à tout le monde, le moins cher et puis le moins polluant aussi. Là, c'est, le train, il est mort dans toute l'Amérique du Sud. Pourquoi? Pour les compagnies privées d'autobus et pour vendre du moteur General Motors.
Pourtant, on leur avait dit, que c'était inéluctable, que c'était irréversible, que c'était naturel, que c'était le sens de l'histoire, que c'était l'ordre des choses, qu'il n'y avait rien à dire contre. Et pourtant, malgré tout, dissidence, résistance, peu à peu, des contre-feux se sont rallumés, se sont allumés contre la mondialisation, comme on l'a dit à un moment, contre la contre-réforme alter-mondialiste. Nous voici. C'est un mot qui est apparu il y a quelques années, qui avait été précédé d'autres mots d'oiseaux, d'autres noms d'oiseaux, à ceux qui osaient mettre en doute les nouvelles, la nouvelle économie. C'était des gauchistes, c'était des utopistes, c'était des archaïstes, c'était des droits de l'homme, c'était des trotskistes et enfin des alter-mondialistes. Aujourd'hui, on commence quand même à comprendre. Pourquoi? À cause des idées, de l'idéologie, de la spéculation? Pas du tout. C'est parce que dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, notamment dans l'emploi, mais aussi bien dans l'environnement, on s'est aperçu que la mondialisation n'est pas si heureuse que ça. Alors on a commencé à creuser, on a commencé à se poser des questions, on a commencé à réagir, on a essayé de commencer à dire et redire qu'un autre monde est possible. Lequel au juste, on sait pas trop. En tous les cas, on en a le sentiment très ferme. Pour dire ce que serait un autre monde, ou d'autres mondes au pluriel, ou comme le disait le sous-commandant Marcos, il y a d'autres mondes dans le monde que nous voulons. Pour ça, il faut comprendre déjà celui-ci et la façon dont celui-ci évolue. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec Vincent Glen, on regarde son film. Ce garçon, ce réalisateur de 35 ans, a mis 3 ans pour réaliser ce film. Il nous a expliqué pourquoi ça s'appelle Pas de volume, pas assez de volume. C'est parce que c'est son banquier qui lui a répondu ça. Vous faites pas assez de volume, donc on peut pas vous financer. D'où sa distribution très particulière, hors circuit de son film, et surtout hors télé. À quoi s'intéresse-t-il ce garçon qui n'est pas du tout un spécialiste? Il nous a intéressé en tout cas hier à l'OMC et aujourd'hui à la GCS. L'OMC, on en a assez souvent parlé dans cette émission, c'est l'Organisation Mondiale du Commerce qui a été créée en 1995, oui tout à fait, et c'est une organisation internationale qui regroupe 145 pays et qui a pour but de contrôler le commerce mondial, ce qui en soi évidemment semble tout à fait salutaire et même nécessaire, sauf que dans les dispositions de l'OMC, on voit que tout doit devenir marchandise, tout. Toutes les activités humaines, pas seulement commerciales, mais absolument tout doit devenir marchandise. Et il y a aussi, et c'est son deuxième volet de son documentaire, la GCS. La GCS aussi, on en a parlé assez souvent dans cette émission, et pour autant, il faut revenir, parce que rien n'est fait pour nous aider. Je parlais de cette fausse transparence, ou de cette fausse opacité, comme on voudra, qui nous empêche de bien comprendre les enjeux et les conséquences dans nos vies quotidiennes. L'accord général sur le commerce des services, la GCS, est un des accords fondateurs de l'OMC. Il comporte un programme qui, par étapes successives, doit soumettre chaque pays à l'OMC et donc au marché mondial, et soumettre à ce marché mondial un nombre de services toujours plus grand, y compris, on va voir tous les services qui sont concernés, mais y compris les services publics. Vous écoutez, je vous le rappelle, une radio de service public. Voilà aussi pourquoi ça nous intéresse, nous, de ce côté-ci du transistor, et vous, de l'autre côté. C'est jusqu'à 18h, c'est la basse édition.
Je dis que pour démystifier le système, pour donner à l'Afrique l'occasion de comprendre exactement quelle est sa nature, prenons l'exemple du sida. Mais toutes les femmes africaines seraient dehors aujourd'hui si elles savaient qu'aujourd'hui on peut empêcher la mort ou la retarder, et qu'elles mettent au monde des gosses qui meurent, qui tombent comme des mouches, et que quelque part il y a quelqu'un qui dit que pour des questions de brevet, nos pays ne doivent pas avoir accès à ces médicaments.
À Doha, en novembre 2001, il est question de permettre aux pays du Sud de produire ou d'importer légalement des médicaments génériques pour lutter contre les grandes épidémies. À cette date-là, sur 30 millions de personnes atteintes par le virus du sida en Afrique, seuls 1% ont accès à un médicament. Un an plus tard, en décembre 2002, sous la pression de leurs industries pharmaceutiques, les États-Unis refusent de signer le compromis de Doha. C'est le seul pays à refuser parmi les 146 membres que compte alors l'OMC. Il faudra attendre encore un an, juste avant le sommet de Cancun, en septembre 2003, pour que les États-Unis acceptent enfin de signer le compromis proposé à Doha, cela après avoir imposé des clauses de vérification par l'OMC. Une des idées centrales qu'on retrouve dans les textes de l'OMC, c'est que nous avons tous à gagner à ce que chaque pays se spécialise dans ce qu'il sait faire de mieux. Depuis le 19e siècle, les économistes appellent ça la théorie des avantages comparatifs. Aujourd'hui, ça donne quelque chose du genre... aux Américains les films, aux Français le vin et les produits de luxe, aux Brésiliens le café, aux Norvégiens le saumon, aux Japonais l'électronique, les armes, aux pays. pays membres du Conseil de la sécurité de l'ONU, etc.
Mais à qui profite la GCS ? Aux citoyens ? Ou aux entreprises ?
Peut-être certains plus que d'autres.
Je suis agent général AXA depuis 15 ans. Dans ce métier, ce qui est essentiel, c'est le sens du contact. Des clients m'arrêtent parfois dans la rue pour me demander conseil sur leur retraite. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir leur parler d'AXA Bank parce que cette banque va aussi les aider à bien gérer leur argent au quotidien. Dans un monde d'incertitude, c'est rassurant.
Vivre confiant. AXA.
Monsieur, bonsoir. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche, marqué par la grande manifestation contre le projet de réforme des retraites.
Idée centrale. Il y a une idée centrale derrière l'OMC. Il y a une idée centrale derrière la GCS. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une idéologie. Il y a une idéologie qui veut que la Norvège ne fasse que du saumon et que la France ne fasse que du vin et des parfums et pas autre chose. Tout ça, c'est des idées. Et ces idées ne se présentent pas comme des idées. Elles se présentent comme des évidences. Et les évidences, ça se discute pas. Alors, on se tait, on accepte, on dit, si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance dans ce monde d'incertitude. Et peu à peu, je le disais en commençant, et nous le savons tous, on a bien la confiance, le degré de confiance, le degré de confiance des ménages a baissé peu à peu. Il y a comme une grande défiance qui s'est installée. Et dans les causes de cette défiance, c'est effectivement une idéologie qui peu à peu apparaît, une véritable vision du monde, un véritable projet total pour notre vie sur cette planète et pour celle de nos enfants. D'où la qualité et l'intérêt de la proposition que fait Vincent Glenn dans le regard critique qu'il a à travers son film « Pas assez de volume ».
Si depuis quelque temps déjà, vous avez vous aussi observé une tendance assez marquée pour la privatisation des services publics un peu partout dans le monde, vous vous êtes peut-être intéressé au fameux AGCS. Vous connaissez ? Bon, pas tout le monde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'AGCS, c'est l'accord général sur le commerce des services. Il fait partie des 28 accords fondateurs de l'OMC et s'occupe de tout ce qu'on peut mettre derrière le mot « service ».
L'AGCS, ou le GATS en anglais, couvre quasiment toutes les activités humaines. Il n'y a vraiment que les services régaliens de l'État, l'armée, la police, la magistrature et la religion qui sont en
Suzanne George.
Mais toutes les autres activités, on trouve dans 12 grands chapitres et 165 ou plus aujourd'hui, parce que le nombre évolue, de sous-secteurs. Et c'est vraiment un effort pour couvrir l'ensemble des activités qui ne sont non plus des services publics ou considérés comme des droits, comme l'éducation ou la santé, mais qui sont considérés comme d'énormes marchés.
Je vous propose à présent une visite au Parlement européen à Strasbourg. Ce jour-là, à l'extérieur, les dockers étaient venus manifester leur colère contre un projet de directive européenne. À l'intérieur, le commissaire Lamy venait quant à lui rendre compte aux parlementaires des négociations menées par la Commission dans le cadre du fameux AGCS.
L'ordre du jour appelle la déclaration de la Commission sur l'accord général sur le commerce des services dans le cadre de l'OMC, y compris la diversité culturelle. Et je donne pour la Commission européenne la parole à Monsieur le commissaire Lamy.
Merci, Monsieur le Président. Les services sont l'un de ces nouveaux domaines du commerce international qui touchent directement aux préférences sociales et aux modes de vie et qui suscitent donc davantage que les marchandises des préoccupations des citoyens et de leurs représentants. et ses préoccupations concernent en particulier la transparence des négociations internationales, le maintien de nos services publics, le traitement des pays en développement, si j'en crois les questions posées par un certain nombre d'entre vous. Et je voudrais rappeler brièvement les enjeux de cette négociation.
À Doha, la réunion ministérielle de l'OMC, on a relancé les négociations sur les services. Et pour le faire, ils ont décidé qu'il y aurait d'abord une période où chaque pays membre ferait des demandes auprès des autres, c'est-à-dire voilà les secteurs que je veux vous voir libéraliser, vous pays en face. Ouvrez-moi les transports, l'énergie, l'éducation, la santé, l'eau, la distribution, etc.
Les demandes aux partenaires de l'OMC qui ont été déposées en juillet dernier couvrent une série de secteurs qui ont été rendus publics et sur lesquels je peux revenir. Je précise que ces demandes ne cherchent ni à démanteler les services publics, ni à privatiser les entreprises publiques. Aucune demande n'a été faite par l'Union sur les services de santé ou sur les services audiovisuels à aucun pays, et seuls les États-Unis ont reçu de notre part une demande limitée à l'enseignement supérieur privé.
Ensuite, quand chaque pays a eu l'occasion de faire ses demandes sur cette base-là, on lance la phase des offres. Et sur la base des demandes reçues, on dit « d'accord, je suis prêt, moi Europe, ou moi Brésil, ou moi Australie, à ouvrir tel ou tel secteur à la concurrence ». Et c'est sur la base de ces demandes faites et reçues, et ces offres faites et reçues, que l'on entame les négociations.
Bon, alors vous me direz que je suis une idéaliste, mais c'est ça le miracle du commerce. Tout le monde peut en bénéficier, alors peut-être certains plus que d'autres, mais le but c'est que personne ne perde. Peut-être certains plus que d'autres.
Ah, si j'étais riche. Si j'étais riche. Moi. Adieu la charrette. Chaque jour je digue riche. Moi.
Monsieur, bonsoir. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche, marqué par la grande manifestation contre le projet de réforme des retraites, un immense cortège de militants syndicaux, de fonctionnaires, de salariés privés ou encore d'enseignants.
Diversité, choix, paradis du consommateur, liberté, ces mots reviennent et nous hantent et sont devenus des certitudes. Sauf qu'évidemment, comme toujours, il faut se méfier du langage. La confiance dans la langue doit être toujours limitée. Prenez un événement qui va hanter le Festival de Cannes. C'est pas seulement les menaces de nos amis et nos camarades interlutants, c'est aussi que Disney, nos amis Disney, quoi de plus gentil que Disney, eh bien Disney empêche sa filiale Miramax de distribuer un film critique sur George W. Bush. Eh oui, c'est comme ça. Et de qui est ce film? D'un certain Michael Moore. Vous voyez, le gros rigolo. Eh bien, le gros rigolo, il propose à Cannes un film intitulé Fahrenheit 911 et qui est en lice pour la Palme d'Or. Et de quoi il parle? Pourquoi tout ça? Eh bien, c'est que Michael Moore, dans Fahrenheit 911, s'en prend un petit peu à W et aussi à sa famille et aussi au lien qui existe entre la famille Bush et ses proches, avec de grandes familles saoudiennes, dont la famille d'Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Et oui, W et Ben Laden, même combat. Évidemment, c'est un tout petit peu ahurissant. Et en tout cas, ça ne plaît pas à Disney. Et donc, Michael Moore ne sera pas distribué par Disney. Liberté, libéralité, liberté, libérale.
Il faut voir que la GCS repose aussi sur une idéologie et sur un certain nombre d'objectifs. Idéalement, quel est l'idéal, quoi? Quel est l'objectif? Et la GCS répond, augmenter encore une fois le volume du commerce des services, c'est retirer au maximum l'intervention de l'État. C'est faire en sorte que l'État ait le rôle le plus petit possible. L'État est un obstacle à ce qu'une multitude d'initiatives privées puissent s'exprimer partout. Vous êtes belge, vous avez envie de faire des affaires à Hong Kong, vous avez un projet de monter une école privée, la GCS vous donne a priori toute la légitimité qu'il faut pour le faire. Pour ça, on sait bien qu'il y a une histoire de comment étaient, disons, orchestrées les négociations. Dans le film, on montre que...
C'est-à-dire que lever les barrières au commerce, c'est lever aussi le recours via les politiques, via les représentations politiques qu'ont les citoyens pour réglementer. Ça passe au-dessus du politique, puisque c'est au sein de l'Organisation mondiale du commerce, dont les décisions qui ont été prises à l'unanimité des membres s'appliqueront à tous les membres.
Absolument. Clause de la nation la plus favorisée. Deux expressions...
On prend même pas de quoi il s'agit.
Le traitement national, ça veut dire que on doit traiter toutes les entreprises sur un pied d'égalité, et on doit traiter notamment toutes les entreprises étrangères comme on traite les entreprises nationales.
C'est-à-dire que la régie nationale des voitures doit être traitée comme Chevrolet ou comme Rolls-Royce.
Voilà. Et la clause de la nation la plus favorisée, c'est dire que si vous avez accordé un certain avantage à une société privée dans un pays, vous devez étendre cet avantage à tous les autres pays membres. Avec ces deux armes juridiques, il devient effectivement possible pour une société privée d'arriver, de s'installer dans un pays et de dire vous devez nous traiter à l'égal des autres. C'est-à-dire vous subventionnez votre école publique, vous devez nous subventionner pareil.
Vous subventionnez les hôpitaux, vous devez nous subventionner notre clinique privée, pareil.
Vous donnez telle ou telle faveur à la poste, vous devez traiter les autres pareil.
Vous subventionnez le cinéma et l'aide à la production, vous devez subventionner les grands studios hollywoodiens.
Exactement. Et on voit bien que déjà, l'État français a du mal à financer, on voit les conditions des hôpitaux publics par exemple. Eh bien, si les entreprises privées du monde entier ont le droit de s'implanter en France et de demander la même chose. Ce qu'explique bien Raoul Margénard dans le film, c'est que, à partir de là, l'État ne pourra pas faire face, ne pourra pas subventionner tout le monde. Donc, le seul choix qu'elle aura, c'est de se retirer. Donc, c'est ce qu'explique, c'est pour ça que Raoul Margénard dit, quand on parle de libéraliser, dans le cadre de la GCS, à terme, on parle de privatiser.
L'OMC est le meilleur ami de vous. Parce que sans les systèmes comme ça, vous avez le système avec les règles de la jungle.
Les règles de la jungle.
Voilà.
Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, va descendre. Le silence propice te berce. Souris et sois complice. Laisse tes sens glisser vers ces délices tentatrices. Tu dors, petit?
Oui.
Je suis de ceux qui croient que moins il y aura de règles, plus ce sera la joie de la jungle. Et comme on le sait, dans la jungle, c'est les gros qui deviennent plus gros et les petits qui deviennent plus petits ou plus faibles.
Aie confiance, oui, crois en moi, que je puisse sur toi.
Ayez confiance, ayez confiance.
dans l'OMC, ayez confiance dans l'AGCS, dans le film de Vincent Glenn, pas assez de volume, Pascal Lamy vous le dit.
Il ne s'agit pas de libéraliser les services, il s'agit de faire des progrès dans l'ouverture du commerce des services, et ceci n'a rien à voir avec la dérégulation, la libéralisation ou la privatisation.
Faire des progrès dans le commerce des services, c'est pas pareil que la libéralisation des services. C'est pas pareil.
À partir du moment où on a engagé, c'est le terme, un secteur dans un processus de libéralisation,
et Raoul Marc Génard,
la CS dit engager un secteur, pas le commerce d'un secteur, mais engager un secteur dans un processus de libéralisation, pour faire court, on peut dire que la conséquence, c'est qu'on peut mettre le signe égal entre le mot libéralisation et le mot privatisation.
On prend l'exemple de Doha, la troisième ministérielle de l'OMC,
qui
avait
quand
même promis la transparence et la démocratisation après Seattle, se passe où ? Dans l'Émirat arabe du Qatar. Bien commode, les manifestations sont interdites, les syndicats sont interdits, et qu'est-ce qui se passe ? Pendant cette ministérielle, on a mis sur le tapis, dans la négociation, de nouveaux secteurs dans le domaine des services. On a rajouté à l'accord AGCS, l'accord général sur le commerce des services, les services d'environnement. On a rajouté les ressources naturelles, l'eau, y compris l'eau libre, les nappes phréatiques, le captage, distribution de l'eau, etc. Et de retour de Doha, nous avons eu le président Chirac et Lionel Jospin qui ont déclaré « c'est bien, l'environnement a été pris en compte à Doha ». Mais ce qui a été pris en compte, c'est sa privatisation.
L'eau. Alors là, j'ai des choses à vous montrer. En 2002, à Créteil, Ricardo Petrella, président de l'Association pour un contrat mondial de l'eau.
Serons-nous capables, d'ici 20 ans, 2015-2020, surtout quand on sera 8 milliards de gens, de permettre à tout le monde accès à l'eau potable et éviter que, comme à l'heure actuelle, ce soir, on aura comptabilisé statistiquement 30 000 morts de par le monde entier à cause de maladies dues à l'absence d'eau potable. 30 000 personnes sont mortes statistiquement hier et mourront aujourd'hui et mourront demain. Et je pense que c'est inacceptable de notre part les promesses de la Banque mondiale, les promesses de vous, le secteur privé, qui dites que encore dans 15 ans, il va y avoir des milliards de gens qui n'auront pas accès à l'eau. Et je me permets de vous rappeler que ces mêmes gens qui étaient pas les mêmes physiquement, les mêmes personnes, mais les mêmes pouvoirs, et qu'ils avaient lancé la décennie mondiale de l'eau en 1977. Et l'objectif était, à l'an 2000, ils allaient revoir zéro personne sans accès à l'eau, sont les mêmes pouvoirs, les mêmes logiques, les mêmes acteurs publics et privés qui aujourd'hui nous promettent non pas de réduire l'absence d'eau à tout le monde, mais disent on arrivera peut-être sur 8 milliards à avoir 3 milliards seulement de gens qui n'ont pas accès. De ces gens-là, de ces institutions-là, de ces logiques-là, on n'a rien à foutre. Excusez-moi l'expression.
Je ne souhaite pas que l'on tombe systématiquement dans ce que j'appellerais l'euromorphisme. Oui, nous avons en Europe un modèle de service public extrêmement étendu. Je fais partie de ceux qui y tiennent. On peut avoir une opinion différente sur ce point. Je fais partie de ceux qui y tiennent, mais je dois aussi être lucide sur le fait que ce périmètre très vaste n'est pas imité partout dans notre monde.
Pascal
et
Lamy,
notamment dans un certain nombre de pays en développement qui, pour l'instant, n'ont ni l'intention, ni souvent les moyens de se payer, si je puis dire, des services publics comme nous le faisons chez nous. Et dans ces cas-là, alors l'ouverture de leur marché de services est la meilleure solution pour mieux gérer leurs économies, les rendre plus compétitives et mieux les intégrer au commerce mondial.
Acuerdo general sobre comercialización. Comercialización de servicios.
No necesitamos pedir permiso para ser libres.
Il y a le scandale, le fait que nos entreprises géantes sont, du point de vue des Africains, des prédateurs qui, évidemment, n'ont pas d'objectifs philanthropiques, mais ont des objectifs de profit et de rentabilité. Le moteur principal des compagnies de services de distribution d'eau, comme disait Messier à un moment donné à Vivendi, c'est d'abord d'avoir un chiffre de bénéfice net supérieur à deux chiffres. C'est ça l'objectif. Et c'est pas de donner accès à l'eau potable à toute la planète. Là, on rentrerait dans des considérations politiques, donc éthiques, où on dirait, au nom d'une certaine conception de l'humanité, il nous paraît important, mondialement, de donner accès à l'eau potable à tout le monde. Et ça devrait être un droit, et pas quelque chose qui relève de l'économie, c'est-à-dire si tu as les moyens, tu peux te le payer, si tu n'as pas les moyens, tu ne te le payes pas, et c'est comme ça. Voilà, si nos choix ne sont dictés que par ce qui est ou qui semble faisable, alors on renonce à tout ce qui pouvait faire l'infaisable, et donc toute la dimension qui fait que l'humanité, elle peut pas être réduite à une chose. Libre-échange au sens que le meilleur gagne, une sorte d'anarchie de droite. Il n'y a pas de chef, mais finalement, le plus fort saura bien se faire respecter, et ce sera comme ça. Et de toute façon, il n'y a pas de grille de lecture morale qui nous permette de trouver mieux. Et puis il y a tout ce qui peut représenter les idéaux républicains dans le meilleur sens du terme, et un début d'un mouvement international républicain qui dit il existe un certain nombre de choses qui, n'appartenant à personne, appartiennent à tout le monde. Dans le cas des services publics ou du trésor public, c'est les bijoux de famille.
Moi, je parle d'une mondialisation capitaliste financière aujourd'hui qui pose que l'État ne doit plus être acteur dans certains domaines. Et c'est à partir de ça que les institutions de Bretton Woods ont décidé que les pays africains doivent se désengager de beaucoup de secteurs. Et vous savez, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, l'électricité, l'eau, le téléphone a déjà été privatisé. C'est Bouygues et autres qui contrôlent. Et on connaît le problème d'électricité au Sénégal. Chez nous, Vivendi est candidat au rachat de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Donc on essaie le problème de Vivendi ici. S'ils viennent là-bas, c'est pas pour les beaux yeux des Africains, c'est pas par philanthropie, ils viennent pour se faire du blé.
Nous sommes à présent avec Pierre Nakulima, professeur de philosophie à l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso.
Le groupe Bolloré contrôle le chemin de fer en Afrique de l'Ouest, bientôt en Afrique centrale, parce qu'il a racheté le chemin de fer au Cameroun, le Congo, je crois que c'est déjà fait. Le transport maritime, il contrôle. Les forêts au Gabon, c'est lui qui exploite. Le café, les cigarettes, tout ça en Afrique de l'Ouest, c'est lui. Un monopole qu'on n'accepterait même pas ici.
Les audaces, les remises en question et les bagarres internes en Europe, entre l'Europe et les États-Unis, tout cela devrait édifier l'Afrique. Tout cela devrait nous permettre de nous ressaisir pour dire en matière de privatisation, par exemple, si on est prudent, on ne veut pas tout brader chez soi, pourquoi faut-il obliger l'Afrique à privatiser et à vendre aux multinationales du Nord?
C'était Aminata Traoré, écrivain et ancienne ministre de la Culture du Mali.
Ce qui est possible contre le terrorisme doit l'être aussi contre la pauvreté, pour une mondialisation humanisée et maîtrisée. Formons une coalition pour construire ensemble une civilisation universelle où chacun trouve sa place.
Dans mon pays aujourd'hui, on a vendu l'électricité à une multinationale française et nous payons plus cher l'électricité qu'ici. La privatisation des services. Alors il ne faut pas affamer localement les gens, les humilier, les priver de sources de revenus, des populations entières dans tout le sud, et vous les refoulez à longueur de journée, et vous êtes en train de verrouiller davantage pour que nous ne venions pas ici, en disant ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher ce qu'on leur a pris.
Ils viennent chercher ce qu'on leur a pris, dit Aminata Traoré, la malienne Aminata Traoré, à travers tout le travail de le film de Vincent Glenn, Passer le volume. On rencontre des personnages qu'on a rencontrés assez souvent dans la bassine. J'y suis, Raoul Marc Génard, Suzanne George, Agnès Bertrand, René Passet, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, on l'a entendu hier, qui est un ancien économiste en chef et vice-président de la Banque mondiale, et qui a publié un bouquin que je vous recommande l'an passé chez Fayard, intitulé « Quand le capitalisme perd la tête ». Et là, c'est vraiment un cri d'alarme. Mais ce qui est intéressant, évidemment, dans son film, comme d'une règle générale, c'est d'aller voir du côté de ceux qui défendent la GCS, qui défendent l'OMC, quelles sont leurs idées, quelles sont les valeurs qu'ils défendent, puisqu'on a tous compris que tout ça n'est pas inéluctable et qu'il y a des alternatives.
Nous savons évidemment que l'OMC et la GCS, ça n'est pas la seule manière d'attaquer les services publics. On le fait tous les jours au niveau national, au niveau européen. Mais nous disons, ça fournit un cadre universel pour les attaquer et ça fournit surtout une structure juridique pour essayer d'entamer petit à petit tout ce qui est service, que ce soit dans des pays riches ou des pays en développement.
L'avenir s'annonce radieux. Welcome to the business.
WTI is a good idea.
L'OMC est une bonne idée.
It's a perfect, no, it's not.
Est-elle parfaite? Non, bien sûr.
Democracy and having an assembly and having a parliament are good ideas.
La démocratie, avoir une assemblée et un parlement sont des bonnes idées.
Are they perfect?
Sont-elles parfaites?
No, they're not.
Non, bien sûr.
And they never will be.
Et elles ne le seront jamais.
Because our species is not perfect.
Car notre espèce est imparfaite.
All we can say is, are we better off, in the main, than we were than our parents?
La question est de savoir si globalement on s'en sort mieux que nos parents.
In many areas we are. We're living longer, fewer children are dying. In some areas we're not as well off.
Et dans beaucoup d'endroits c'est le cas. Nous vivons plus longtemps, la mortalité infantile a baissé, mais nous avons aussi régressé.
Emotionally, we now have more drugs, we have more mental and health problems in different ways.
Au niveau psychiatrique, il y a plus de drogues, il y a nombreux problèmes de santé mentale.
But you are going to live probably 20 years longer than your grandmother.
Mais quand même, tout compte fait, vous vivrez probablement 20 ans de plus que votre grand-mère.
Merci Mike. Après Mike, ce fut au tour du Thaïlandais Supachai Panchpakdi de prendre la direction générale de l'OMC pour un mandat de 3 ans. Au cours d'une conférence à Londres, juste avant d'entrer en fonction, j'ai demandé à Supachai s'il connaissait l'expression « un renard libre dans un poulailler libre ».
To compare it with letting free the foxes to devour the hens, I think it's not really. I would say I do not disagree.
Comparer ça avec la liberté du renard de dévorer les poulets, je suis pas vraiment en désaccord.
Because by unleashing the forces of market forces and the forces of competition.
Parce qu'en déchaînant les forces du marché et de la compétitivité.
You cannot forget that ultimately we are helping the final consumers.
Il ne faut pas oublier qu'au final nous aidons le consommateur.
Free trade could give more choices. You can choose many things.
Le libre échange offre plus de diversité. On a le choix.
And you can get good value for your money.
Le rapport qualité-prix est meilleur.
You pay less when there is competition for the same kind of quality of products.
Grâce à la compétitivité, on paye les mêmes produits moins cher.
So the welfare of the consumer could be enhanced because there is free competition.
Donc le bien-être du consommateur s'en trouve amélioré.
So it's not really sending in the foxes to eat the hen. It's trying
to. Donc c'est pas tellement laisser des renards libres dans un poulailler libre pour manger la poule.
Give the hen more opportunity to find several kinds of food to pick from.
Mais c'est plutôt d'essayer de donner à la poule d'avoir le choix de ce qu'elle pourra picorer.
Récapitulons. Premièrement, si les grandes surfaces et les entreprises mettent la pression pour obtenir de la main-d'œuvre et des matières premières au plus bas prix, c'est la faute à la concurrence. Deuxièmement, si on doit licencier des milliers de travailleurs chasser des millions de paysans des campagnes, c'est la faute de la concurrence. Troisièmement, la concurrence, c'est ce qu'il y a de mieux pour favoriser le commerce mondial. Quatrièmement, l'institution qui met en place des règles sur le commerce mondial n'est pas là pour imposer des règles aux entreprises privées. Cinquièmement...
La culture, et plus particulièrement le secteur audiovisuel, ne sont pas exclus de l'accord général sur le commerce des services. Nous devons, et je crois que c'est notre position à tous les deux devant vous aujourd'hui, être bien conscients que la promotion de la diversité culturelle ne doit pas se résumer en la défense par chaque État membre de son industrie nationale. Il ne s'agit pas de fabriquer un nouveau protectionnisme déguisé qui ne convaincrait personne.
Il y a encore quelques décennies en France, entre 20 et 30% des spectateurs allaient voir des films ni français ni américains. Laissons passer les années Reagan-Thatcher, l'Europe de Maastricht, l'installation des hypermarchés du cinéma que sont les multiplexes, et hop, au début des années 2000, seuls 2% des spectateurs vont voir des films originaires de tous les autres pays du monde.
When you say, well, the unemployment rate increased from 3% to 15%, it sounds just like in any other number.
Quand on dit, eh bien, le taux de chômage est monté de 3 à 15%, ce n'est plus qu'un chiffre parmi d'autres.
But that really dehumanizes what is really going on.
Mais c'est vraiment une façon de déshumaniser la réalité.
Alors, libéralisation extrême, mais je regrette que les économistes en France notamment aient perdu, totalement oublié, le sens du message d'un de mes aînés, de mes maîtres, François Perroux, qui avait une analyse très approfondie des effets de domination entre nations et des inégalités, et qui montrait bien que la libération des échanges entre inégaux, c'est ce qui permettait aux plus puissants d'absorber le plus faible.
Qu'est-ce que c'est que ça, ce truc-là ? Mais à qui est-ce ?
Merci à tous, merci à Vincent Glenn, le réalisateur de ce film, donc pas assez de volume. Merci à Suzanne George, Agnès Bertrand, René Passer, Raoul Marc Génard, Pascal Lamy, Mike Moore, Aminata Traoré, Ricardo Petrella, Soupa Chai et Pierre Makoulima. Pas assez de volume est projeté actuellement à l'espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel à Paris jusqu'au 11 mai. Les lieux et dates des projections dans les salles françaises sont disponibles sur le site de la coopérative qui distribue le film qui s'appelle Co-errance, site www.cote-errance au pluriel.org. Le téléphone, c'est le 01 40 05 04 24. Tout ça, c'est sur le site franceinter.com. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Yann Chouquet, Pascal Le, Pascal Yello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de la base. J'y suis, le téléphone de là-bas, le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste et géniale. On peut avoir notre tube de la semaine, Antoine. Le voilà.
Après une semaine de travail, je suis un jeune comme toi. Je pense aller danser le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit. Des nouveautés comme cette chanson magique. On en prend plein la vue avec ces jeux de musique, de lumière. Le slow, le disco, les vidéoclips. On danse toute la nuit dans les boîtes de nuit.
Voilà comment le service public aide la chanson française. Merci à tous. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve lundi à 17h pour la Basse-Suisse. Je vous laisse pour le journal avec Odile Martin. Salut.